les 14h à Paris, 9h à Port-au-Prince et à Washington.
RFI Midi, Clotilde Dumais.
La dernière demi-heure de RFI Midi sur le continent américain. On va d'abord évoquer ces manifestations hier en Haïti. Les Haïtiens qui protestent contre les violences des gangs alors que Port-au-Prince est presque entièrement à leur merci. Ils dénoncent également l'inaction des autorités. On va y revenir avec Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Déjà 2 mois de Donald Trump à la Maison-Blanche, le président américain qui gouverne à coups de décrets dans tous les sens, quitte à contourner les institutions. Alors est-il un danger pour la démocratie? On va en parler dans les prochaines minutes. Et puis l'actualité des Outre-mer. Bonjour Odana Jiali. À la une, le déménagement d'une partie des habitants d'un village de Martinique.
Oui, face à la montée des eaux, 300 familles de la commune du Prêcheur devront être relocalisées dans les hauteurs. Un phénomène d'érosion qui touche toute la Martinique. À tout à l'heure.
On en parle donc tout à l'heure. Mais d'abord, le journal international.
RFI Midi.
Bonjour Paul Longsin-Spinelli.
Bonjour Clotilde Dumais, bonjour à tous.
Et d'abord cette question, qui pour incarner l'olympisme pendant les 8 prochaines années?
La réponse Clotilde, on l'aura dans l'après-midi. L'élection du nouveau président du Comité international olympique va commencer dans moins d'une heure à Costa Navarino, c'est dans le sud de la Grèce. Ils sont toujours 7 en course pour prendre le fauteuil de l'Allemand Thomas Bach. Et ses candidats, ils ont avancé leurs arguments jusqu'à la dernière minute auprès des 106 membres présents. 106, c'est le nombre maximal d'électeurs possibles. En réalité, le premier tour en concernera moins. Bonjour Christophe Diremzian.
Bonjour Paul.
Ça nécessite un petit éclaircissement sur le règlement de cette élection.
Effectivement, la première particularité de ce scrutin, vous le savez, ce sont que les membres de la même nationalité qu'un des candidats en course ne peuvent pas prendre part au vote tant que celui-ci est encore en course. Le premier tour va donc concerner moins de 100 personnes. C'est un vote électronique. Si un candidat obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, il est élu. Sinon, un deuxième tour se tient dans la foulée, mais sans le candidat qui a recueilli le moins de voix. Même principe à chaque tour, jusqu'à ce qu'il ne reste éventuellement que 2 candidats. Et cas extrême, même si ces 2 rescapés ne sont toujours pas départagés après 2 nouveaux votes, eh bien c'est Thomas Bach, qui n'interviendra pas dans le processus auparavant, qui choisira le vainqueur en faisant usage de sa voix prépondérante. On n'en arrivera sans doute pas là, mais on s'attend au moins à 3 voire 4 tours d'un scrutin qui se tiendra dans le plus grand secret. Tous les appareils électroniques des électeurs vont rester à l'extérieur de la salle de la session. Les journalistes, eux, eh bien, ne verront rien, ni son, ni image pendant le processus. Seul le nom du vainqueur sera annoncé à la fin. Et c'est seulement ensuite que le détail des votes, tour après tour, sera révélé.
Merci Christophe Diremzian, en direct de Costa Navarino, en Grèce. Le bruit des sirènes d'alerte de retour dans les rues de Tel Aviv, en Israël. 3 roquettes ont traversé le ciel israélien à la mi-journée. Une a été interceptée par l'armée de l'air israélienne. 2 autres sont tombées sur des zones non habitées. La branche armée du Hamas a revendiqué ces tirs en riposte au massacre de civils à Gaza. 504 personnes au moins sont mortes depuis la reprise des frappes israéliennes mardi, selon la défense civile de l'enclave.
Le rapprochement entre les États-Unis et la Russie se poursuivra dimanche sur fond de conflit en Ukraine.
C'est ce qu'indique un conseiller de Vladimir Poutine il y a quelques minutes, des pourparlers qui se tiendront en Arabie Saoudite. Cette meilleure entente entre Washington et Moscou, elle réorganise aussi l'agenda de l'Union européenne. Les 27 sont réunis à Bruxelles pour un Conseil européen de printemps. Ils sont déterminés à renforcer leur capacité de défense et à continuer à soutenir l'Ukraine. Au lendemain d'un appel téléphonique apaisé, cette fois, entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, la chef de la diplomatie de l'UE, Kaya Kallas, veut convaincre les Européens de débloquer une nouvelle aide militaire pour Kiev. On l'écoute.
Je me réjouis de l'annonce du président Trump sur le fait que les États-Unis essayent de trouver des défenses aériennes supplémentaires pour l'Ukraine. C'est extrêmement important. Et bien sûr, nous discutons aujourd'hui de ce que nous pouvons faire de plus. Pour l'Ukraine, mon initiative va dans le sens des besoins du président Zelensky. J'ai proposé une aide de 5 milliards d'euros pour fournir des munitions à l'Ukraine. Nous devrions commencer à prendre des mesures concrètes, non seulement en parole, mais aussi avec des actes pour aider l'Ukraine. Plus l'Ukraine sera forte sur le champ de bataille, plus elle sera forte à la table des négociations.
Kaya Kallas, la chef de la diplomatie de l'Union européenne.
En Turquie, Ekrem İmamoğlu appelle la justice à ne pas se taire et à agir.
Les avocats du maire d'Istanbul publient ce message sur son réseau social X ce jeudi. Arrêté hier, cette figure de l'opposition qui devait être désignée candidat de son parti, le CHP, pour la prochaine présidentielle en 2028, vient de passer sa première nuit en détention. Ekrem İmamoğlu est accusé de corruption et de terrorisme. Ce matin, des cortèges d'étudiants sont descendu dans les rues d'Istanbul pour dénoncer ce qu'il qualifie de coup d'État.
10 ans de prison requis ce matin contre Boualem Sansal en Algérie.
L'écrivain franco-algérien, incarcéré depuis la mi-novembre, est accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Le verdict sera prononcé jeudi prochain, le 27 mars. La situation de l'auteur qui cristallise les tensions diplomatiques entre Paris et Alger. Parmi les autres nombreux points de crispation entre les deux pays, il y a notamment le cas de l'influenceur Boualem, suivi par près de 130 000 personnes sur le réseau social TikTok. Ce franco-algérien a été condamné début mars à 5 mois de prison avec sursis pour une vidéo dans laquelle il appelait à s'en prendre à un opposant au pouvoir algérien. Bonjour Baptiste Coulon.
Bonjour à tous.
L'homme a été interpellé ce matin en vue d'une nouvelle tentative d'expulsion vers l'Algérie.
Oui, alors pour bien comprendre, je vous propose de tout rembobiner. À l'origine, il y a, vous le disiez Paul, ces vidéos dans lesquelles il s'en prend à un opposant au pouvoir algérien. Elles lui valent son expulsion vers l'Algérie début janvier. Mais le même jour, on s'en souvient, les autorités algériennes refusent son entrée sur le territoire. Il est donc renvoyé en France. Depuis, le tribunal administratif a annulé son obligation de quitter le territoire français, renvoyant le dossier devant la COMEX, la commission d'expulsion, qui a rendu un avis favorable. C'est sur la base de cet avis qu'un nouvel arrêté ministériel a conduit à l'interpellation de l'influenceur ce matin. Interpellation vivement dénoncée par son avocate Marie-David Belloir.
Il est pris en étau dans la crise diplomatique franco-algérienne. On voit que ça bat sur lui des mesures qui sont disproportionnées dès le début et jusqu'à maintenant avec son interpellation à plusieurs hommes cagoulés comme si on allait arrêter un grand criminel.
Que va-t-il se passer désormais, Baptiste ?
Deux possibilités, Paul. Soit l'influenceur est placé en centre de rétention avant son expulsion, auquel cas des voies de recours sont possibles pour ses avocats. Soit il est expulsé dans les toutes prochaines heures via une procédure d'urgence, procédure que la justice avait annulée lors de la première tentative. On l'a bien compris, dans ce dossier bras de fer entre France et Algérie, le plus difficile est sans doute moins l'expulsion de l'influenceur que son acceptation par Alger sur son territoire.
Merci Baptiste Coulon pour ces explications.
Il est 13h07 à Paris, en temps universel, pardon, une heure de plus à Paris. La Belle et la Bête revisitée ne devrait pas venir compléter en France les bibliothèques des élèves de CM2.
Le CM2, c'est le dernier niveau de l'école primaire. En France, le gouvernement vient d'annuler in extremis la nouvelle version de ce livre. Selon le ministère, les dessins de l'artiste Joule n'ont pas semblé adaptés à ses lecteurs de 10-11 ans, Sophie Torlotin.
Pas de robe à crinoline, ni de manches bouffantes comme dans les films de Jean Cocteau ou Disney. Dans cette version illustrée au goût du jour, Jules représente la belle La Pommade avec d'épais sourcils noirs et de longs cheveux bruns, posant pour un selfie avec une grosse bête tenant le smartphone. Et quand le père de la belle boit du vin, le dessinateur le montre ivre en train de chanter Les Lacs du Connemara de Michel Sardou. Spécialiste des anachronismes et des clins d'œil à l'actualité, Jules reste fidèle à son style tendre et humoristique pour illustrer ce conte traditionnel du XVIIIe siècle. Mais d'après la directrice générale de l'enseignement scolaire, cet ouvrage ne permet pas une lecture en autonomie des élèves de 10-11 ans. Jules dénonce des prétextes fallacieux, mais la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, se défend de toute censure et maintient que ses dessins, qui montrent la princesse sur les réseaux sociaux, n'est pas adapté pour de jeunes élèves censés ne pouvoir les utiliser qu'à partir de 13 ans.
Sophie Torlotin.
Et c'était le journal de Paul Lonsin-Spinelli.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
La colère des Haïtiens dans les rues de Port-au-Prince, excédée par la violence des gangs armés. Des milliers de citoyens venus des quartiers de Canapé Vert, Paco, Debussy ont manifesté hier. Ils dénoncent aussi l'impuissance du gouvernement. Correspondance de Peterson Luxama depuis Port-au-Prince.
11h du matin à Bourdon, Sous un soleil de plomb, une foule immense bat le pavé. Défiant la peur et l'incertitude, les citoyens expriment leur ras-le-bol contre l'insécurité et la passivité du pouvoir en place, à l'image de ce jeune frisant la trentaine.
Nous demandons au conseil présidentiel et au gouvernement de récupérer les territoires contrôlés par les gangs. Les bandits m'empêchent de vivre dans mon propre pays. Je ne peux pas l'accepter. Qu'ils viennent me tirer dessus, là, dans ma rue. Je n'accepterai pas de mourir chez moi comme un lâche.
Même pas accepter mourir dans la camion, c'est que lâche.
Abandonnés par l'État, en colère, ces manifestants se disent prêts à se battre pour retrouver le droit de vivre en sécurité dans une capitale dont la chute paraît de plus en plus probable.
Ils veulent nous chasser du pays, mais nous n'avons nulle part où aller. Nous n'avons ni mère, ni père, ni personne à l'étranger sur qui compter. Notre seul refuge, c'est notre pays et nous n'acceptons pas de le livrer aux gangs.
L'objectif de ces citoyens était clair, atteindre les lieux où le pouvoir politique est installé. Mais à mesure qu'ils progressaient, la répression s'est abattue sur eux. Ils ont buté sur un grand dispositif de sécurité. Tirs dans les airs, utilisation de gaz lacrymogène, les policiers ont répondu à la détresse populaire par la force. Une nouvelle démonstration des autorités qui semble plus prompte à étouffer les revendications qu'à combattre l'insécurité qui gangrène la capitale. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Et cette colère, eh bien, elle est à la une du Nouvelliste aujourd'hui. Bonjour Franz Duval.
Bonjour Clotilde.
Rédacteur en chef donc, du Nouvelliste, votre journal qui revient donc lui aussi sur ces manifestations de milliers de riverains hier à Port-au-Prince.
Tout à fait, c'est une première pour la région métropolitaine de Port-au-Prince depuis que le conseil présidentiel de transition est au pouvoir. Les Haïtiens jusqu'à présent subissaient, ne se plaignaient pas, ne sortaient pas dans les rues. Mais hier, c'était la foule des grands jours, la foule de ceux qui peuvent encore manifester, parce que dans certains quartiers, il n'y a quasiment plus personne. Mais il faut dire que les zones qui se sont rebellées hier, ce sont les derniers quartiers sûrs de Port-au-Prince, où les gangs n'ont pas encore pénétré.
Et c'est une sorte de sursaut, hein, France, de la part de ses habitants, alors qu'on parle ces derniers jours d'une potentielle prise totale bientôt de Port-au-Prince par les gangs.
C'est un sursaut et le sursaut s'adresse à la fois aux forces de l'ordre pour leur donner du support, mais surtout pour déplorer le fait que les autorités n'ont même pas un mot pour ce qui se passe dans la région métropolitaine depuis quelques jours. Et surtout, les réponses sécuritaires ne sont pas à la hauteur des difficultés qu'affrontent les riverains de ces quartiers.
Vous en parlez effectivement dans le Nouvelliste, hein, pour l'instant, de cette absence de réponse de la part des autorités et du nouveau gouvernement en place, du conseil présidentiel, du nouveau président du conseil présidentiel de transition.
Tout à fait. M. Fridjian est plutôt en balade, comme a dit le Nouvelliste hier. M. Fridjian est en province, il assiste à des fêtes patronales, il fait des inaugurations, il fait des conversations pendant que le Port-au-Prince est en train de sombrer. Le reste du gouvernement est tout aussi silencieux. Il y a pas de discours, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de réponse. Les gens s'estiment qu'ils sont totalement délaissés par les autorités. Et cette manifestation qui a été bloquée au niveau de Bourdon, l'artère qui conduit au bureau du Premier ministre et de la présidence, cela aussi a laissé un goût amer aux manifestants qui ont été arrosés de gaz lacrymogène. Et il y a eu même des tirs à balles réelles, il y a des blessés par balles. Et tout ça va laisser des traces dans les jours qui viennent.
Alors, dans ce contexte très difficile. Vous dites aussi dans le journal aujourd'hui que la compagnie Aruba Airlines a décidé d'annuler les vols réguliers qui étaient prévus à partir de mardi prochain entre Port-au-Prince et Miami.
Il faut dire que depuis novembre, il n'y a plus de vols commerciaux sur l'aéroport de Port-au-Prince. Rien du tout comme vol commercial. La Aruba Airlines était arrivée, avait fait des annonces, avait annoncé un vol surprenant entre Port-au-Prince et Miami. Il faut dire que c'est une compagnie qui ne desservait pas Haïti avant. Et tout le monde était un peu étonné, et tout comme hier matin, on a été encore étonné d'apprendre que la compagnie ne viendra pas au final. Et il faut dire que la compagnie n'avait pas finalisé ses permis, et la situation sécuritaire entre-temps s'est dégradée entre l'annonce de la reprise de ses vols et aujourd'hui. Il y a encore une situation sécuritaire encore plus compliquée dans la région métropolitaine de Port-au-Prince.
Merci beaucoup, Franz Duval, en ligne depuis Haïti, rédacteur en chef du Nouvelliste, à lire sur le site donc de votre journal, lenouvelliste.com.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Aux États-Unis, en 2 mois de présidence, il a déjà fait beaucoup d'annonces, beaucoup de décisions, souvent contestées. Deux mois de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président américain qui gouverne par décret, en contournant les institutions, en remettant en cause l'état de droit. Alors Donald Trump est-il une menace pour la démocratie? C'est une question qui revient de plus en plus aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde. Bonjour Harim Leupold.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
Et il faut dire qu'il ne se passe pas un jour sans que Donald Trump ne bouscule la politique américaine avec des décisions donc qui inquiète de plus en plus.
Oui, exactement. Il agit en fait à un rythme, vous l'avez dit, effréné à coups de décrets présidentiels, presque une centaine depuis son arrivée au pouvoir le 20 janvier dernier. Il contourne le Congrès, qui a pourtant une majorité républicaine. Et l'un de ses premiers décrets, souvenez-vous, c'était la création d'un nouveau département, le DOGE, dirigé par son ami Elon Musk. Officiellement, c'est pour réduire les dépenses publiques, mais en réalité, c'est une purge des milliers de fonctionnaires licenciés, des agences fédérales fermées, même celles censées être indépendantes.
Et pourtant, ces mesures sont contestées en justice.
Exactement, mais cela ne freine pas Donald Trump. Il passe en force et engage un véritable bras de fer avec la justice. Contre l'avis d'un juge, par exemple, il a fait expulser ces derniers jours plus de 200 Vénézuéliens, membres présumés d'un gang vers le Salvador. Une attaque directe contre l'indépendance de la justice. Réaction immédiate et rare. Le président conservateur de la Cour suprême a recadré le président furieux, la Maison-Blanche a riposté en accusant les juges d'être des militants anti-Trump. Non seulement ces juges usurpent la volonté du président et chef de l'exécutif de notre pays, mais ils sapent aussi la volonté du peuple américain, a déclaré la porte-parole de Donald Trump, Karoline Leavitt.
Alors la question maintenant, Harim, c'est de savoir si Donald Trump respectera l'autorité des juges.
Exactement, et le doute Clotilde est permis surtout après ces propos-là.
Well, we are the federal law.
Ouais, c'est moi, nous sommes la loi fédérale, a déclaré le président il y a quelques semaines déjà, Clotilde, lors d'un échange vif avec une gouverneure démocrate.
Alors si cette attitude, elle en étonne certains, mais en fait Donald Trump applique des propositions du Project 2025, un programme ultra-conservateur conçu par ses proches dès 2023.
Exactement, tout ou presque tout était déjà écrit dans ce texte de 900 pages. On trouvait par exemple déjà l'idée de démanteler l'administration fédérale et de remplacer les fonctionnaires par des personnes loyales à Donald Trump. Le Project 2025 propose aussi de s'attaquer à la culture dite woke et de bannir les personnes transgenres de l'armée, une mesure que Donald Trump a déjà prise, bien qu'elle est pour le moment suspendue par la justice.
Et ce n'est pas tout, puisqu'il s'attaque aussi à un autre pilier de la démocratie, la presse.
Et oui, le président a licencié une grande partie des journalistes de Voice of America, une radio publique créée pendant la Seconde Guerre mondiale pour promouvoir justement la démocratie. Il accuse la chaîne CNN de couverture illégale et limite aussi l'accès de l'agence de presse AP à la Maison-Blanche. Une chose est sûre, Clotilde, rien ne semble l'arrêter dans sa volonté de tester les limites de la démocratie. Au Congrès, sa majorité républicaine est docile et quant aux démocrates, eh bien, ils sont pour le moment inaudible reste la justice et la société civile. Mais seront-elles assez fortes pour freiner le virage autoritaire du président américain?
Le bilan d'Harim Leupold après deux mois de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président américain qui a aussi ses soutiens en Floride. On peut même parler d'un Trump bis. Bonjour Anne Verdaguer.
Bonjour.
Ce Trump bis, eh bien, c'est le gouverneur de l'État de Floride, Ron DeSantis.
Oui, El País nous apprend qu'il veut même en faire encore plus que son mentor. Ron DeSantis s'efforce à rendre la Floride plus MAGA que Trump, titre le journal. Pour preuve, il a créé son propre département d'État pour l'efficacité gouvernementale. Inspiré et calqué sur le DOGE dirigé par Elon Musk, le gouverneur de Floride a aussi approuvé une loi très dure ciblant les immigrés illégaux qui a fait grincer des dents, même côté républicain. Ron DeSantis a toujours été comme emprisonné dans l'ombre de Donald Trump, estime El País. Sa mesure la plus spectaculaire restant celle contre l'immigration, donc la nouvelle législation alourdit les peines pour tous les crimes commis par les immigrants illégaux, y compris la peine de mort pour les délinquants de premier degré, et crée un nouveau délit, l'entrée illégale sur le territoire américain. Certaines villes de Floride, comme South Miami, se demandent si elles doivent se plier à sa politique ultra-répressive, explique le Miami Herald, au risque de voir ses subventions fédérales fondre comme neige au soleil si elles décident de se rebeller.
Sorto Maya. Ce qu'on entend là, Anne, c'est la vidéo postée sur les réseaux sociaux par le président du Salvador, Nayib Bukele, de l'incarcération dans une prison de haute sécurité de 238 Vénézuéliens expulsés des États-Unis.
Le New York Times, dans son article, diffuse ces images de propagande dignes d'un film hollywoodien où ces hommes qui ont les mains et les pieds entravés par des chaînes sont extirpés d'un avion qui les emmène au Salvador et conduit à bord de véhicules blindés tels de dangereux criminels au Secot, la prison de haute sécurité salvadorienne. On les tire par les cheveux puis on leur rase le crâne avant qu'ils ne soient conduits tête baissée en cellule par des hommes encagoulés. La vidéo de 3 minutes a été vue 39 millions de fois en 3 jours, révèle le New York Times. Et ce procédé n'est pas nouveau. Le président Bukele, qui est un ancien publicitaire, a déjà eu recours à ce type de vidéo. On y voit des scènes, des mises en scène de situations humiliantes et déshumanisantes lors d'arrestations. Pour preuve, cette autre vidéo de 2023 des autorités salvadoriennes, publiée par le journal, qui montre des corps de prisonniers torse nus, accroupis et alignés. La caméra fait un travelling au-dessus d'eux, sur leur tête rasée. Leur torse nu et tatoué. Ils se ressemblent tous comme s'ils n'avaient plus de statut, comme s'ils n'étaient plus des êtres humains.
Vous restez avec nous, Anne, pour la fin de cette revue de presse. Mais l'actualité, ce sont aussi ces manifestations hier à La Paz, en Bolivie, pour que le gouvernement prenne des mesures concrètes contre la crise économique. Le pays fait face à une forte hausse des prix, à un manque de dollars et depuis la semaine dernière, à d'importantes pénuries de carburant. Reportage du correspondant de RFI, Nils Sabin.
La ville de La Paz était en partie bloquée hier par des manifestants, tout comme sa banlieue El Alto, complètement immobilisée par une grève des conducteurs de minibus. Tous souhaitaient mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il trouve une sortie de crise. Elay Awasi, rencontré dans le centre de La Paz.
Le gouvernement a déjà pris des mesures, mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucune amélioration. C'est presque une blague. Nous, ce qu'on demande, c'est de vraies solutions.
Parmi les demandes des manifestants, le limogeage de plusieurs ministres, dont celui des hydrocarbures. Pour Elay Awasi, cela aurait dû arriver il y a bien longtemps.
Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais déjà viré ces ministres incompétents. Je ne sais pas ce qu'attend le président.
L'une des organisations à l'origine de la manifestation, les Ponchos Rojos, a encerclé les rues bordant la place Murillo, où se trouve le Parlement et le siège du gouvernement. Luis Mamani Chira.
Nous demandons une solution immédiate. Et si ça n'arrive pas, le peuple bolivien et les 20 provinces de La Paz vont sortir dans la rue. Et le gouvernement en paiera les frais. Hasta las últimas
consecuencias. La crise que traverse la Bolivie n'est pas vraiment nouvelle. La pénurie de dollars remonte à 2023 et l'inflation était déjà forte l'année dernière. Mais pour le moment, les problèmes continuent de s'accumuler pour le gouvernement. Nils Sabin, La Paz, RFI.
Et on termine ce tour de l'actualité au Guatemala, où après 2 jours de manifestation, le président cède et suspend l'assurance obligatoire pour les véhicules à moteur.
Oui, il faut dire que les accidents de la route sont la principale cause de décès au Guatemala, bien au-dessus de la criminalité. En février, un accident d'autocar a fait 54 morts. Le président Bernardo Arevalo avait alors publié un décret obligeant les conducteurs de véhicules à moteur à souscrire une assurance. S'en est suivi 2 jours de manifestations très violentes. La Prensa Libre nous apprend que lors de son allocution, le président guatémaltèque a expliqué qu'il comprenait le malaise de la population. Les opposants au texte ont mis en avant la situation économique du pays où la pauvreté touche 60% de la population.
Anne Verdaguet pour la revue de presse.
RFI Midi.
On passe à l'actualité des Outre-mer avec vous, Odane Agiali. Et vous revenez donc sur le déménagement d'une partie des habitants d'un village de Martinique.
Oui, la faute à l'érosion et à la montée du niveau de la mer qui menace les habitations. Au nord-ouest de la Martinique, le village du Prêcheur veut donc reloger une partie de sa population dans les hauteurs. Et pour cela, les élus demandent l'aide de l'État. Christine Cupit.
D'ici 20 ans, notre île pourrait perdre 5% de sa superficie à cause du dérèglement climatique. C'est le cas de la ville du Prêcheur, où une partie de la population réside sur le littoral. Avec l'érosion, la plage a déjà perdu une bonne partie de sa surface. Et cela n'est pas prêt de s'arrêter. C'est pourquoi la municipalité du Prêcheur a pris les devants et lancé un projet de refondation. Un projet qui prévoit de relocaliser 300 familles, soit environ 900 personnes, sur les hauteurs, au quartier Préville. Des logements seront construits avec des matériaux naturels conçus pour mieux résister aux tempêtes, aux cyclones et aux tremblements de terre. Une école-refuge accueillera également les sinistrés en cas de catastrophe naturelle. Il existe un projet similaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, un projet lancé par l'État lui-même sous la présidence de François Hollande. Le député du Nord, Marcelin Nadeau, a interpellé le ministre des Outre-mer afin que l'État augmente son aide financière et que le prêcheur puisse bénéficier du même traitement que Miquelon.
Christine Cupit, Martinique, la première. Le groupe Bernard Ayotte, visé par une enquête de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, enquête qui fait suite à la plainte de l'ONG Transparency International France concernant la non-déclaration des activités de lobbying de ce groupe martiniquais, le groupe GBH, régulièrement mis en cause pour ses marges jugées excessives et son manque de transparence sur les prix. Et puis après, la Martinique et la Guadeloupe, Saint-Martin intègre officiellement l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Une décision officialisée aujourd'hui lors de la 76e Assemblée générale de cette organisation internationale. Et contrairement aux États souverains, l'île devient membre associé, ce qui va lui permettre tout de même de bénéficier de programmes de coopération, comme l'explique le politologue Julien Mérion.
Saint-Martin ne sera, comme la Guadeloupe et la Martinique, qu'un membre associé. Ce qui signifie qu'elle ne pourra pas, en tant que collectivité, participer à l'intégralité des politiques publiques mises en place par l'OECS. Par contre, et là c'est l'intérêt majeur, c'est une capacité de relation, de réseautage, et notamment pour profiter d'un certain nombre de moyens en ce qui concerne la pêche, en ce qui concerne la gestion de la mer, en ce qui concerne le climat, en ce qui concerne notamment le commerce, qui permettra certainement d'accroître les possibilités de Saint-Martin. Mais là encore, faut-il que la volonté politique soit suivie de moyens d'intervention concrets à l'intérieur de l'organisme.
Des propos recueillis par nos confrères de Guadeloupe la Première. Bonne journée Clotilde.
Merci beaucoup Odan Agiali. Il est presque 13h26 en temps universel. On arrive à la fin de ce RFI midi. On se quitte avec un peu de musique, de la musique américaine. The Boss, Bruce Springsteen, il sera en concert en France fin mai à Lille et à Marseille. On écoute Bruce Springsteen sur RFI. Un avant-goût de ce que les chanceux vont pouvoir voir sans doute fin mai en France, à Lille et à Marseille, le concert de Bruce Springsteen. Restez avec nous dans quelques instants. C'est De Vive Voix avec Pascal Paradou sur RFI. Je remercie Yann Eligouin à la réalisation et Emmanuel Klotz à la rédaction en chef pour ce RFI Midi. Whoa!